Littérature sans frontières.
Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Bonjour à toutes et à tous. Écrivaine discrète, Linda Lee est l'auteur d'une œuvre singulière qui interroge le silence, l'enfermement, l'emprise, mais qui rend hommage aussi à la littérature. Entre ombre et lumière, son nouveau roman met des mots sur l'incompréhension entre une femme et sa mère et souligne en pointillé la fracture que provoquent certains exils, comme celui de cette réfugiée obligée de quitter son pays à cause d'une guerre civile, un pays jamais nommé, mais sans doute le Vietnam, où est née Linda Lee et qu'elle a quitté à 14 ans pour venir en France. Pour entrer dans ce texte intitulé « Je ne répondrai plus jamais de rien » paru aux éditions Stock, écoutons la voix de l'auteur qui nous lit les premières phrases. Linda Lee.
C'était la phrase que tu répétais sans cesse l'année de ta mort. Je ne répondrai plus jamais de rien. Je t'avais emmené au Danemark. Adrien avait accepté de quitter son refuge, perché au haut des falaises normandes, pour nous accompagner à Elseneur. La fin du printemps s'annonçait, mais un vent glacial balayait les ruelles de cette petite ville aux maisons basses dont nous avions pu faire le tour en une heure. Le premier jour, nous étions allés au château de Kronborg. Shakespeare, dit-on, ne l'avait en réalité jamais visité avant d'écrire Hamlet. Sur le chemin qui menait à la forteresse, tu t'étais arrêté au milieu de la rue Buxtehude. Tu avais murmuré quelque chose que ni Adrien ni moi n'avions compris. Dans la cour du château, des troupes de comédiens amateurs jouaient des pièces de Willy, comme tu appelais Shakespeare, en éclatant d'un rire malicieux. Tu t'étais exclamé « Words, words !» à la suite d'un échalas en costume qui allait, venait, un sabre à la main. Puis tu t'étais soudain tu en entendant une phrase anodine d'Adrien qui, jouant les guides pressés de nous faire découvrir des lieux insolites, nous annonçait qu'aux alentours, il y avait un centre psychiatrique. Tu étais comme pétrifié par ce que tu venais d'apprendre.
Bonjour Linda Lee.
Bonjour Catherine.
Et merci pour cette lecture de votre nouveau roman. Et comme on vient de l'entendre dans cet extrait, ce texte est une lettre ouverte, celle d'une femme à sa mère, disparue quelque temps après cette scène d'ouverture. Une longue adresse d'une centaine de pages où la narratrice libère un flot de colère, d'incompréhension, d'interrogation qui depuis toujours définissent ce lien complexe entre elle et ses parents. Et c'est comme si la littérature devenait le seul espace où, quand il est trop tard, on peut enfin exprimer les mots qu'on n'a pas dit plus tôt. Est-ce que c'est ainsi que vous abordez l'écriture, Linda Lee ?
Je pense que tout dépend des livres, mais la plupart du temps, oui. La littérature, je ne la conçois pas du tout ni comme une thérapie, ni comme un remède, ni... C'est une façon, oui, de dire qu'il a fallu rattraper quelque chose du passé. Mais ce passé doit devenir, comme dirait René Char, une salve d'avenir. La possibilité d'avoir des salves d'avenir, malgré tout. Je dirais que malgré le côté peut-être un peu sombre du début du livre et la tonalité aussi un peu nocturne du livre, crépusculaire, il y a aussi un aspect solaire. Et l'aspect solaire est important pour moi quand je termine un livre.
C'est en effet comme s'il y avait une digue qui tenait tout au long de la vie et qui, avec la mort, s'était effondrée et libérant avec elle une parole, celle de la narratrice, qui peut enfin presque s'exprimer.
s'exprimer ou comme vous le disiez tout à l'heure, exprimer surtout sa colère, sa rage.
Oui.
Sa rage vis-à-vis d'une mère. Je précise que le livre n'a rien d'autobiographique, c'est un roman avant tout. Sa rage envers son père, qu'elle ne désigne jamais autrement qu'en disant à sa mère « ton mari ». Elle ne dit jamais « mon père mon, » ou « papa » ou elle dit « ton mari ».
On va peut-être s'arrêter d'ailleurs sur cette situation familiale un peu particulière, puisqu'en effet, entre ces deux femmes, il y a cet homme, le géniteur de la narratrice au sens biologique du terme, parce que lui, il est véritablement absent comme mari et comme père, puisqu'il a fondé en parallèle une autre famille avec une autre épouse, une autre fille qui ignore l'existence de la famille officielle. Et d'ailleurs, vous renversez la situation. C'est comme si l'épouse légitime était devenue la maîtresse qu'on venait voir en catimini. Donc cet homme est une figure masculine plutôt détestable, contre qui la narratrice, en effet, est très en colère. Depuis très longtemps, dès l'âge de ses 14 ans, elle a manifesté en renversant le gâteau d'anniversaire qu'elle a piétiné sa rancune envers cet homme qui n'est pas là. Et d'ailleurs, je trouvais, Linda Lay, que cette rage, vous la rendiez admirablement par des mots et par des phrases et par un rythme dur parfois. Et je me demandais où vous étiez allé chercher cette tension, vous qui avez cet air si doux, si paisible, ce calme et ce sourire que vous avez pendant que je vous pose la question.
Bon, je pense qu'il ne faut pas trop se fier aux apparences. Et puis d'autre part aussi, peut-être, je dirais, c'est quelque chose de l'ordre anecdotique. Je travaille la nuit, enfin en tout cas une partie de la nuit. Donc au moment où... parfois, la fatigue est grande quand j'ai fait autre chose dans la journée, quand je n'ai pas dormi dans la journée. Et je suis dans une grande tension nerveuse. Et en même temps, je suis entourée du silence de mon appartement, de l'immeuble. Tout le monde dort, à part les fêtards. Et le téléphone ne sonne pas, D'abord, je coupe le téléphone quand je travaille la nuit. Donc, c'est ce sentiment d'avancer dans la nuit, dans les ténèbres, quand je travaille aux premières heures de la nuit. Je crois que c'est cette tension qui persiste toujours. Ça fait quelques années que je le fais, peut-être 7 ans, mais c'est un autre moi qui m'habite. Enfin, je ne dirais pas que je me transforme en sorcière non plus, mais il y a quelque chose de... cette impression que dans le silence, tout devient vital. Surtout le travail que j'ai... Il n'y a pas ce qu'on appelle l'angoisse de la page blanche. Je ne la connais pas la nuit. Et si je n'arrive pas à écrire, je lis. Ça reste dans de l'ordre de du sentiment toujours d'avancer en ayant le vertige.
Et le moment aussi où à la fois sortent les démons, peut-être. Et comme vous disiez... au début de cet entretien, Linda Lay, aller quand même vers la lumière, parce que au bout de la nuit, c'est l'aube, et il y a une lumière qui arrive.
Oui, et très souvent, j'essaie de travailler jusqu'à ce que je vois les lueurs de l'aube. Enfin, en ce moment, c'est un peu l'aube
grise,
et puis le soleil arrive très tardivement, mais l'été, par exemple, ou le printemps, ce sont des moments où... j'ai l'impression que je découvre quelque chose au bout de ces heures.
Ce qui donne aussi l'impression avec ce livre, c'est que ce n'est pas un tombeau littéraire précisément, dans le sens où, bien sûr, la narratrice rend vivante cette mère qui néanmoins a disparu, mais c'est comme si elle était plus que jamais présente, puisqu'en fait il y a un mystère autour de cette femme aux multiples visages, présentée tour à tour comme rescapée d'une guerre civile, réfugiée en France, épouse, femme trompée, bibliophile, mère silencieuse, et puis jeune fille auréolée en effet de ce mystère, puisqu'elle a disparu pendant 8 mois sans donner d'explication. Et paradoxalement, c'est comme si c'était ce vide, cette absence qui était la clé de tout et définissait véritablement la mère. Est-ce que c'est aussi le défi du non-dit que vous relevez ici dans ce roman, Linda Lay ?
Le silence, oui, certainement.
Qui est donc différent du non-dit, selon vous ?
Oui.
Dans quel sens ?
Je pense que le non-dit, pour moi, a toujours été lié à, aux secrets familiaux, à quelque chose de l'ordre de la vengeance, du règlement de compte, de la vengeance, surtout de la revanche qu'on prend sur ses parents.
Donc quelque chose de volontaire.
Oui.
Et, qui n'est pas le cas ici.
Et tandis que le silence, c'est cette femme silencieuse et le silence qu'il y a peut-être par moment dans le livre, c'est un peu une façon de se défendre. Le silence est une protection pour moi extrêmement incroyable. Et longtemps d'ailleurs, je me réfugiais beaucoup dans le silence et la parole pour moi était quelque chose de très difficile. D'où peut-être le choix de m'exprimer en écrivant, je ne sais pas, mais le silence qui enveloppe une personne comme cette mère, c'est aussi ce qu'elle cache, c'est aussi la source de ses hontes. C'est l'idée qu'elle a disparu pendant 8 mois parce qu'il y a eu une sorte de
fracture.
Une fracture et un moment où la raison est un peu devenue un peu buissonnière, disons. Elle a connu ces vertiges de la déraison et malgré tout, vis-à-vis de sa fille, c'est une honte. Donc, d'où le silence.
Et de fait, il y a beaucoup d'ambiguïté dans ce personnage qui est d'une certaine façon recomposé par sa fille, par des pièces de puzzle, avec au milieu donc ce vide, mais que l'on va comprendre au fur et à mesure de la lecture de votre roman, Linda Lay. Beaucoup d'ambiguïté, disais-je, parce que par exemple, on ne sait pas si la mère a compris très vite qu'elle avait épousé un homme, lâche, traître, voire un pervers narcissique, et que du coup, elle s'en était fait une raison.
Duplicité, en tout cas.
Voilà. Oui. Ou si elle était sous l'emprise de cet homme qui n'a de cesse, néanmoins, de lui déclarer son amour et de la maintenir dans une espèce d'illusion de femme aimée, de femme admirée, même si son comportement dit exactement le contraire. Qu'en pensez-vous ? Parce qu'il me semble que c'est un thème qui a déjà été évoqué dans votre œuvre, Linda Lay. L'emprise.
L'emprise, ouais. Oui. Mais quand on aborde le thème de la souffrance amoureuse, il est toujours question de l'emprise. Et quand vous en avez fini avec tout cela, vous vous demandez comment vous avez pu être dans cet aveuglement et se laisser emporté par la passion à tel point que ça devient une emprise sur vous. C'est ce que beaucoup de personnes se répètent en se disant « mais ce n'était pas moi, qu'est-ce qui m'est arrivé ?» Et c'est cela qui est, je crois, cette emprise qui vous enlève à vous-même, qui vous ôte toute lucidité, toute intelligence. Mais d'un autre côté, je me dis que ce sont souvent des moments où on se laisse emporter par cela. Et c'est pas une pure volonté, mais on le veut bien aussi.
En même temps, ici, j'ai l'impression que les conditions géohistoriques se sont prêtées.
Oui.
Puisque même si vous êtes très discrète sur les identités des uns et des autres, on comprend que cette mère, donc, a fui une guerre civile, est arrivée dans un camp de réfugiés où d'ailleurs elle servait d'interprète, mmh. et qu'un homme, un humanitaire probablement français,
l'avocat, oui.
est tombé amoureux d'elle.
Mmh.
Et voilà. Et comme il a vu sa beauté, il l'épouse. Mmh. Il se trompe sans doute sur les raisons pour lesquelles il tombe amoureux d'elle, parce qu'il tombe amoureux d'une image, il ne sait pas exactement comment elle est.
Oui.
Est-ce que pour autant, il y a un écho politique dans ce couple-là que vous décrivez ?
Il y a une... en tout cas, cet avocat qui tombe amoureux peut-être plus de la pitié qu'il éprouve à ce moment-là. Et je reprends ici le titre d'un livre de Stefan Zweig, La pitié dangereuse. Et précisément dans ce cas, dans le cas du livre, c'est le danger de son côté à elle. Mais c'est vrai que c'est cette femme réfugiée qui a franchi des frontières clandestinement, qui arrive en France et qui rencontre cet avocat qui est le défenseur des démunis. Je ne voudrais pas caricaturer, mais il y a quelque chose qui est l'image du protecteur qui est paternaliste, qui voit la beauté exotique qu'il faudrait préserver de tout, sauf de lui-même. C'est en cela que peut-être le livre a des échos. Le livre n'est pas seulement une lettre, une adresse de la fille à sa mère, ce n'est pas un roman familial, mais c'est quand même la rencontre d'une femme démunie et d'un homme qui se dit qu'il peut jouer un rôle peut-être bénéfique pour lui dans ce mariage, puisque finalement il se marie, elle, par illusion un peu, et lui, parce que la compassion est devenue sentimentalisme avant de devenir ennui, l'ennui de conjugal.
Et c'est un échec, donc.
Oui, ben oui.
Skulking and shuffling outside the door. Whispering, deck resisting, tapping away at our life. Breaking days and falling nights and weeks. When hunger creeps inside, it breathes its suffocation. This is not us, it's not us, we are dreamers. This is not us, not us, we are.
Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI en compagnie de Linda Lay aujourd'hui pour parler de son nouveau roman paru aux éditions Stock sous le titre « Je ne répondrai plus jamais de rien ». C'est une phrase que répète en leitmotiv la mère de la narratrice jusqu'au dernier jour de sa mort. C'est une phrase qui peut se comprendre de différentes façons. Quel sens lui donnez-vous, Linda Lay ?
Dans le sens habituel, c'est-à-dire que cette femme qui a toujours volé au secours de tout le monde, se dit, alors qu'elle pressent qu'elle va mourir, se dit non, je ne répondrai plus à toute forme de demande. Je ne serai plus à la disposition de tous ceux qui me cherchent pour des raisons que j'ignore. Mais c'est vrai que pourrait dire aussi « je ne répondrai plus jamais de rien » ou « je ne répondrai plus ». Ça peut être aussi ça, c'est qu'elle a décidé de ne plus répondre et d'être loin de toute sollicitation.
Et donc, à partir de cette phrase et d'un indice ou d'un autre, la fille va décider d'éclaircir peut-être ce dernier mystère de cette disparition, cette autre absence antérieure, ces 8 mois. Et elle va trouver 4 pages d'un livre allemand traduit en français par l'homme Jasmin, sous-titré « Impression d'une maladie mentale » et signé d'Unika Zürn. Pourquoi, Linda Lay, avez-vous choisi ce titre et cet auteur dont je précise qu'ils existent réellement?
Oui, l'homme Jasmin, c'est le titre du livre, en fait. L'homme Jasmin, c'est de cette façon que Unika Zürn désignait Henri Michaud, qui venait lui rendre visite quand elle était pensionnaire des asiles psychiatriques ou des maisons de repos. Et elle a connu ce qu'elle appelle ses périodes de vacances, dans le double sens, c'est-à-dire où elle ne fait rien, où elle est dans ses maisons de repos ou ses asiles psychiatriques, comme si elle était en vacances, comme si c'était la quai. Et dans l'autre sens aussi, où elle fait le vide. Donc Henri Michaud, qui connaissait Hans Bellmer, son mari, venait apporter à Unika Zürn de l'encre de Chine et du papier pour qu'elle dessine, pour qu'elle écrive. Et pendant très longtemps, d'ailleurs, elle était très éprise de Henri Michaud. Et la fille, donc, en voulant résoudre l'énigme de sa mère...
Elle fait l'hypothèse en trouvant ces pages arrachées. Oui. Elle se dit que c'est des pages qui donc ont de l'importance, de la valeur. Elle émet l'hypothèse que sa propre mère, donc, pendant ses 8 mois d'absence, aurait été dans le même asile, internée avec Unika comme compagne de vacances, j'ai envie de dire. Oui. Qu'est-ce qui vous intéresse, vous, dans ce thème de la folie, Linda Lay?
Le fait que la raison vagabonde, les vagabondages de l'esprit m'ont toujours intéressée, passionnée. Et j'ai toujours lu beaucoup d'écrivains qu'ils sont bons à enfermer.
Qui, par exemple?
Artaud, bien entendu. Enfin, qui c'est pas qu'il seulement qu'il était bon à enfermer, mais il a été. Ou d'autres écrivains qui... peut-être pas seulement les écrivains, d'ailleurs. L'univers de la folie, l'univers de... Je me souviens, par exemple, d'un film que Wang Bing, le documentariste chinois, a consacré à un hôpital psychiatrique. Et c'est un film qui dure 4 heures. Et pendant 4 heures, nous voyons les pensionnaires de cet asile. Et c'est absolument passionnant parce qu'il y a aussi bien des dissidents que
des personnes vraiment malades.
Qui sont juste un peu...
différents.
Voilà.
Alors, ce qui est intéressant dans ce que vous venez de dire, Linda Lay, c'est qu'on croit comprendre, pour autant que cette mère ait vraiment été internée, que si c'est le cas, c'était à sa demande. À sa demande aussi, à un moment où elle sent une fracture, en tant qu'exilée, si j'ai bien lu votre texte, est-ce que, en effet, s'exiler, c'est expérimenter la folie, selon vous?
Je pense que beaucoup d'exilés connaissent à un moment ou à un autre ce sentiment d'être étranger à soi. Ça commence par ce sentiment d'être étranger à soi et ça peut finir par le sentiment d'être, de ne plus se maîtriser, de ne plus... Là, c'est pas seulement les vagabondages de l'esprit, ce sont vraiment des souffrances de ceux qui n'ont plus de repères, peut-être.
Mais vous qui l'avez connu, cet exil, puisque vous êtes né au Vietnam et vous êtes arrivé en France à l'âge de 14 ans, vous l'avez éprouvé, ce sentiment de désappartenance, j'ai envie de dire, qui peut se transformer par une impression de folie?
J'ai connu pendant très longtemps un sentiment d'inappartenance, d'abord. Donc, je me sentais d'aucun pays, d'aucune communauté, d'aucune... Cela a pu se traduire, oui, par des sentiments d'étrangeté. C'est une histoire lointaine.
Vous voulez dire que vous n'avez plus aucun lien, par exemple, avec le Vietnam, votre pays natal?
Oh, j'en ai toujours. Et tout, je crois qu'on a beau se dire qu'on n'a aucun lien avec son pays d'origine, on en a toujours, mais je n'en fais pas... Je ne fais pas un étendard ni du fait de ne pas appartenir à une communauté ou à un pays. Et je ne me sens pas non plus à vouloir incarner celle qui est d'une culture européenne avant tout. Mais j'ai renoué avec le Vietnam, c'est à travers sa littérature et ou à travers la littérature des pays d'Asie.
Et cette littérature asiatique, vous la lisez en français, en traduction?
En traduction, oui. Sauf les livres vietnamiens que je déchiffre un peu, puisque je n'ai pas eu vraiment de... Enfin, j'ai fait toutes mes études en français, même avant de quitter le Vietnam.
Donc le vietnamien est devenu une langue étrangère pour vous? Ou autre?
Oui, c'est vrai. Une langue étrangère, peut-être qui me résiste encore davantage que d'autres langues. Je ne veux pas l'expliquer par une espèce de névrose ou de je ne sais quoi, mais oh non, c'est parce que c'est peut-être que l'heure n'est pas encore venue et j'espère vivre encore jusqu'à ce que je lise couramment le vietnamien.
Et le français, comment est-ce que vous définiriez cette langue par rapport à vous?
Oh, je reprendrai le mot de Suran que j'ai cité souvent. C'est que le français est un peu ma patrie, quoique maintenant je trouve cette phrase dans le contexte actuel un peu trop, qui va dans le sens de ce qui se passe maintenant, c'est un certain nationalisme, etc. Mais les mots français sont quand même la terre dans laquelle je reprends mes forces, comme Hanté, qui ne reprend ses forces qu'en posant ses pieds sur terre. Mais cela reste toujours quelque chose qui est de l'ordre d'un territoire à défricher pour moi.
Donc c'est toujours nouveau? Ou c'est,
oui,
toujours un défi?
C'est toujours nouveau, oui.
Merci beaucoup, Linda Lay.
Merci à vous.
Je rappelle le titre de ce nouveau roman, « Je ne répondrai plus jamais de rien », qui a paru aux éditions Stock.
Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.